L'entreprise Les Viandes du Breton, il y a plusieurs années maintenant, a fait un choix d'affaires qui, à l'époque, apparaissait farfelu aux yeux de bien des éleveurs et même de transformateurs. On choisissait alors de cibler des marchés spécialisés, de niches, dont le bio. Le président de l'entreprise estime que ce choix a été une excellente décision. Monsieur Vincent Breton, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Breton, lorsqu'on parle de production biologique dans le secteur des viandes, on tombe dans une régie, dans une gestion assez complexe. Chez Les Viandes du Breton, comment avez-vous abordé cette question-là? Comment avez-vous décidé de, et pourquoi, de vous lancer dans la production de viande biologique?
Tout d'abord, nous, on a commencé à la fin des années 90 à travailler dans les cahiers de charges au niveau du bien-être animal, au niveau du sans antibiotiques. Et à l'époque, on a commencé à faire affaire avec des leaders dans le marché nord-américain qui s'appellent Whole Food Market puis Chipotle Mexican Grill. Fait que c'est cette clientèle-là, dans le fond, qui nous a amenés vers le bio. On a fait un constat au niveau de nos opérations ici au Québec en se disant, bon, est-ce que le Québec est un bon endroit pour produire, par exemple, du porc de commodité? Est-ce que l'avenir de notre entreprise peut être assuré dans les marchés de commodité? Et avec, bon, bien sûr, l'hiver rude qu'on a au Québec, avec la réglementation qui est au Québec, ce qu'on a fait comme constat, nous, comme organisation, c'est qu'il allait être difficile d'avoir du succès dans les marchés de commodité. Si on se compare, par exemple, aux joueurs américains ou de l'Ouest canadien là, qui ont accès à des grains et où la réglementation, disons, est plus facilitante pour les éleveurs de porc ou pour les usines de transformation. Donc, on a fait ce constat-là. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les niches de marché. Puis par la suite, bien, je dirais que ça a été une évolution avec notre clientèle, là. On s'est adapté parce qu'il a fallu des changements de culture importantes à l'intérieur de l'organisation. Bon, aujourd'hui, on appelle ça faire les choses différemment, mais disons que ça a été pendant plusieurs années où on a dû adapter nos façons de faire, les façons de faire les choses, là, tant dans nos élevages qu'à tous les niveaux dans l'organisation.
Donc, vous avez fait ce choix des créneaux, des secteurs de production très pointus, très spécifiques. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que l'on fait en général, là, parlons globalement, dans le secteur porcin au Québec.
Mais nous, ce qu'on s'est dit, dans le fond, là, c'est qu'en étant en contact avec des clients qui cherchaient des choses différentes, là, puis qui avaient vraiment des orientations qui étaient justement vers le bien-être animal, vers le bio, on a arrêté de penser qu'on faisait les choses comme il faut, puis on s'est mis à écouter notre clientèle. Puis notre clientèle, qui sont toujours les leaders dans le marché, je le disais tout à l'heure, Whole Food, nous a amenés au fil des cahiers de charges, au fil des demandes, disons, vers la production biologique. Et c'est comme ça qu'au début des années 2000, on a commencé à investir dans la production de porc bio.
Justement, qu'est-ce que ça a impliqué du côté production? Vous avez vos propres élevages, vous achetez également des animaux de producteurs privés. Ça demande quand même une réorganisation de tout ce contexte de production.
Oui, et quand je parlais tout tantôt d'adaptation de culture, c'est sûr que au départ, ça a été difficile. On a fait des erreurs importantes, mais on a appris, on s'est adapté. On a commencé à travailler avec des communautés, comme par exemple la communauté Amish en Ontario, qui produisait déjà sous des modes de production plus ancestrales ou plus artisanaux. Et puis par la suite, dans nos installations à nous, puis on est encore dans ce transfert technologique, si on veut, ou de ce transfert de production-là aujourd'hui, on a adapté nos opérations. Bon, adapter nos opérations, dans notre cas, ça a été de détruire complètement les fermes, à part peut-être la structure, et puis de reconstruire complètement notre modèle de production puis notre modèle d'opération. Parce qu'on sait que dans le bio, bon, ben, l'espace que les animaux occupent est à peu près 3 fois plus grand que dans une ferme de commodité. Il y a l'accès extérieur, il y a les grains certifiés bio, donc ça amène une régie qui est d'aucune commune mesure avec la commodité. Là, c'est complètement différent.
Et ça, vous avez pu le faire, vous avez pu démontrer qu'on peut le faire.
Oui, nous, on avait, des fois, je dis, bon, oui, ça a été un changement qui a été long, et puis ça a été une adaptation de la culture de l'entreprise, mais il y avait certains avantages qu'on avait. De par notre implication dans la génétique, à l'époque, on avait des troupeaux, oui, on avait des fermes qui étaient localisées, qui n'étaient pas dans les masses de production au Québec, comme la région de la Beauce ou de Saint-Hyacinthe. On était déjà au Bas-Saint-Laurent, dans Portneuf, où il y a moins de densité. Donc, ces unités-là ont pu être transférés avec succès parce qu'on le sait que dans le bio, bon, pas d'antibiotiques, différents là, aspects du cahier de charge qui rendent la production là, différente et plus difficile, si on veut, ou disons plus rigoureuse. On doit être plus rigoureux au niveau de la gestion pour s'assurer que l'animal qu'on va élever dans ces fermes-là va être en mesure d'être mis en marché.
Et ça, spécifiquement pour des fermes qui appartiennent à Dubreton ou également pour des fermes privées avec qui vous faites affaire?
Bien, je vous dirais que les éleveurs ont le même défi que nous. Hein. Ils ont le même défi que nous, on a au niveau de la production. Fait que c'est sûr que la localisation des fermes est importante. Et puis, c'est un enjeu majeur là, dans la production du bio. Là.
Aujourd'hui, donc, vous augmentez constamment vos volumes. J'ai cru comprendre, lors de présentations récentes, là, au cours des derniers mois, que vous cherchez toujours à augmenter cette production biologique.
Oui. L'année dernière, l'automne dernier, publiquement, on s'est donné un objectif de produire 300 000 parts supplémentaires qui étaient sous régie de cahier de charge bio ou bien-être animal, certified humain, là, qui inclut le sans antibiotiques, sans sous-produits d'animaux, etc. Donc, on s'est donné cet objectif ambitieux-là. On s'est donné 3 ans pour le faire. Et puis là, on est dans la réalisation de ce projet-là en ce moment.
Et ça veut dire que ça vous mènerait à quel volume de porcs, là, au total, produits sous régie bio?
Bien, je vous dirais que, globalement, là, l'entreprise du Bâton, c'est pas nécessairement des chiffres qu'on divulgue, mais ce qu'on dit en général, c'est qu'on s'approche de la moitié de nos ventes là, comme entreprise qui vont être dans les marchés de niche spécialisés, là, tant bio que certified humane et régie de sous-cahier de charge.
Là, je vous demandais des secrets d'entreprise que je comprends fort bien qu'ils ne soient pas publics. Mais éventuellement, est-ce que vous pourriez devenir une entreprise qui ne produit que du bio?
C'est un rêve à long terme. Oui, ça pourrait se faire. C'est sûr que dans un premier temps, toute la logistique puis la régie de mise en marché de ce qu'on faisait dans le naturel ou dans le certifié bien-être animal et dans le commodité nous a aidés. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, là, de mettre en marché l'ensemble de l'animal bio, ça nous a pris 7 ans à réaliser. Ça a été des coûts importants, des frais de démarrage très importants également. Et dans le fond, le porc bio du Breton, là, il est vendu, oui, d'ici au Québec, mais jusqu'à la Californie, en Australie et au Japon. Et ça, qu'est-ce qui a permis de faire ça? C'est la logistique qu'on avait en place déjà à l'époque concernant la vente des autres gammes de produits.
Faire du bio, une fois qu'on est parti, qu'on s'est embarqué dans cette production-là, seriez-vous prêt à dire que c'est une régie comme une autre, sauf que ce sont de nouvelles façons de faire, d'autres façons de faire auxquelles il faut s'habituer?
L'infrastructure bio au Québec est inexistante. Donc, il faut réinventer ou il faut développer ou il faut inventer. Il n'y a pas beaucoup de connaissances dans la régie de production au niveau du bio. Les gens qui ont débuté même avant nous, et puis je pense qu'on en fait partie de pionniers dans l'élevage biologique, surtout dans le porc, je vous dirais que pour nous, ça a été un changement de culture complet. Puis encore aujourd'hui, il faut s'adapter. Bon, on a pris, comme je vous disais, plusieurs années au niveau du démarrage. On a fait des erreurs d'investissement, que ce soit dans la mise en marché ou dans les fermes qui ont été importantes. Mais là, on a raffiné notre modèle, puis on est confiant de pouvoir grandir le modèle. Mais on est toujours en adaptation. On est en recherche pour améliorer nos façons de faire. C'est juste que ça demande, disons, des efforts différents ou ça demande un changement de mentalité des gens où c'est pas juste la productivité, mais c'est vraiment le bien-être de l'animal. Puis c'est sûr que la valeur de l'animal est beaucoup plus élevée, donc ça change complètement la dynamique en élevage puis en transformation.
Chez les producteurs, est-ce que vous sentez un peu de réticence ou les gens embarquent bien volontairement là?
Bien, ce qui est le fun, là, ce qu'on s'aperçoit dans le bio, c'est qu'on a une nouvelle catégorie d'éleveurs ou d'employés qui disent « Hey, moi, je veux aller travailler chez vous, je veux faire partie de ce projet-là. » Ce qu'on voyait moins dans la production de commodités, l'enthousiasme face au bio, l'enthousiasme face, on parle des fois de relève agricole, on est surpris de voir maintenant que, puis c'est hyper positif là, de voir des jeunes qui disent « Hey, moi, je veux investir » ou « Moi, j'aimerais ça avoir une ferme de porc bio ». Des jeunes qui disent « Moi, je veux une ferme de porc commodité », je pense pas qu'on entend ça beaucoup de nos jours, mais pour les fermes bio, on l'entend, puis ça, c'est une grande fierté.
Et chez les consommateurs, c'est sûr, la demande est forte pour vos produits. Vous pourriez produire bien davantage et vous pourriez livrer sans problème. Mais de façon courante, est-ce qu'il arrive encore que des gens vous disent « Ah, le bio, c'est quoi? » On a des doutes. Bien des gens ont des doutes face au bio.
Ça, là, c'est une bonne question. Puis des fois, on prend pour acquis que les consommateurs, c'est une personne, puis qu'ils sont tous pareils. C'est pas le cas. Dans les consommateurs, il y a différents groupes. Hein. Il y a des gens qui s'alimentent simplement pour s'alimenter. Il y a des gens qui s'alimentent davantage, qui sont plus épicuriens ou qui sont plus, on les appelle les foodies, là, qui sont plus orientés vers la qualité ou la satisfaction d'un bon repas ou de produits haut de gamme. Moi, je vous dirais que dans ces différents groupes de consommateurs-là, là, il y a des gens qui sont de plus en plus informés. Il y a des gens qui savent de plus en plus c'est quoi le bio. Puis il y a des gens qui posent de plus en plus de questions. Bien sûr, il y aura toujours des doutes ou il y aura toujours des gens qui vont... Parce que souvent, il a été associé différentes valeurs au bio, hein, que ce soit, puis il y a des gens qui vont simplement rejeter ces valeurs-là. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils vont le critiquer. La même chose au niveau du bien-être animal. Donc, moi, je vous dirais qu'il y a suffisamment de consommateurs maintenant qui ont de l'intérêt envers l'alimentation, qui s'intéressent d'où leur alimentation provient, pour qu'il y ait un marché intéressant pour nous. Oui, il y a de la croissance, mais il faut faire attention parce que c'est des produits qui sont plus dispendieux, qui ne s'adressent pas à tous les types de consommateurs, mais vraiment là, une clientèle croissante pour le bio, tant pour des raisons de choix éthiques, mais également des choix de qualité. Puis on veut offrir, souvent, c'est la décision se prend, on veut offrir des aliments de qualité à nos enfants, à nos familles, aux gens qui nous entourent. Puis je pense que le bio est une bonne façon, au-delà là, de toutes les spécifications d'un cahier de charge, est une bonne façon de garantir une qualité supérieure là, de nourriture aux gens qui nous entourent, à nos familles.
Et de toute façon, même si vous êtes une entreprise importante, vous êtes soumis à la certification, aux vérifications constantes qui confirment que le bio est bel et bien bio.
Au niveau du bio, puis c'est vrai avec les autres cahiers de charge, nous, avec les gens avec qui on travaille, là, les entreprises, je vous parlais de Whole Foods, je vous parlais d'entreprises comme Chipotle Mexican Grill, en plus des certifications bio, cette clientèle-là, ces détaillants-là qui sont vraiment sérieux au niveau de la mise en marché du bio puis des produits naturels, ont leur propre certification ou font leur propre visite. Ils ont des audits, en plus des audits bio, en plus de la certification bio. On a, nous, par exemple, de Whole Foods, des audits à tous les années dans les fermes, à tous les années dans les usines de transformation. Ces gens-là viennent nous visiter et puis ont des organismes de certification, qu'ils soient internes là, ou reconnus par l'externe. Dans le cas de Whole Foods, on parle de Global Animal Partnership, qui est la certification GAP, qu'eux ont mis en place déjà, ça date déjà de plusieurs années. Nous, dans l'ensemble des fermes biologiques et naturelles qu'on appelle là, ou certifiées bien-être animal, on utilise le certificateur également externe qui est Certified Humane, qui est un organisme américain qui vient également nous visiter. Ça fait que c'est, il n'est pas rare de constater là, à la fin de l'année là, que dans la ferme, on a eu 3, 4, 5 audits dans la même ferme parce qu'on en a eu 2 de clients différents. Un audit, nous, interne, plus un audit, par exemple, du certificateur biologique. Donc, ces normes-là ont évolué avec le temps, puis il y a de plus en plus de contrôle.
Quel est votre certificateur?
Nous, ici, au Québec, on utilise Écocert, et puis pour la certification bio. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on utilise également le Global Animal Partnership, le Certified Humane, concernant le bien-être animal et la traçabilité.
Monsieur Vincent Breton, merci beaucoup pour toutes ces précisions et bonne chance pour la suite dans le bio.
Merci beaucoup.
Ici Lionel Levac. Alors, que dire de plus à des gens pour qui les aliments biologiques ne peuvent et dans certains cas ne doivent venir que de petites fermes et de petits transformateurs? Les viandes du Breton démontrent que l'on peut produire à gros volume tout en respectant toutes les exigences de la certification biologique. Et encore une fois, si l'on doute du sérieux du bio, de l'origine des produits, de la qualité et des contrôles réglementaires à propos du bio, imaginez, comme le disait Vincent Breton, que 4 ou 5 vérifications par année soient faites sur une même ferme ou une même usine. Imaginez aussi qu'une entreprise ne veut absolument pas risquer de perdre d'importants clients et de voir sa réputation entachée par négligence ou en tentant de jouer au plus fin avec les inspecteurs certificateurs. Au revoir.